Quand ils se longchent, nous sommes arrêtés au chapitre 8 et au verset 11. Nous prenons donc au verset 12. Nous lirons du verset 12 au verset 29. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en haut, moi je suis d'en bas. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis, c'est le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. » Après cette scène magnifique, extraordinaire, de la femme adultère, à laquelle Jésus avait dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », là où se manifeste la clémence, la douceur, la miséricorde de Dieu, toute la sensibilité, même peut-on dire, de Dieu dans l'exercice de sa miséricorde. Après cela, voici que reprend un entretien serré avec les pharisiens et les juifs. Et Jésus va se trouver à nouveau devant la contestation. Nous avons dit, n'est-ce pas, qu'il est un signe provoquant la contestation. Et il est là, par conséquent, la contestation s'élève. Et dans cette contestation, au cours de cet entretien, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de faiblesse, c'est que la sensibilité, l'amour, la miséricorde ne signifie pas faiblesse. Elles n'ont de raison d'être, la miséricorde et la sensibilité. Elles n'ont de raison d'être que si la parole de Dieu est à sa place et reçue. Devant des hommes qui contestent, ce sera donc des paroles dures. Vous mourrez dans vos péchés. à dire le Seigneur. Des paroles nettes, des paroles incisives, ce ne sont plus les mêmes paroles que devant cette pauvre femme et qui est écroulée sous le poids de son péché, et qui s'attend à la mort, et que la parole de Dieu va brusquement retirer de la mort. Passons comprendre ces deux aspects. D'ailleurs, dans l'Écriture, il y a toujours, deux aspects qui paraissent s'opposer. Toujours. C'est toujours cela. Il y a toujours une antithèse, une opposition. Les ténèbres, la lumière, la bonté de Dieu qui va jusqu'au nu, et la justice de Dieu, et le caractère inflexible des décrets de Dieu. Il y a toujours deux aspects qui s'opposent. D'un côté, nous voyons le salut, nous voyons l'amour de Dieu qui veut nous introduire dans la vie et nous garder à lui. De l'autre côté, il y a les paroles de sévérité qui nous avertissent que si nous abandonnons la foi, abandonnons le Seigneur, il nous abandonnera lui aussi. L'entretien commence sur une déclaration du Seigneur. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette déclaration, nous allons la retrouver dans d'autres textes, au chapitre 9, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous allons la retrouver aussi au chapitre 12. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc c'est une déclaration fondamentale. Et cette déclaration, je suis la lumière, n'est pas à confondre avec je suis la vie. Ce que certains commentateurs font, alors ça, c'est de l'à peu près et c'est du mauvais à peu près. D'un autre côté, une erreur aussi s'est manifestée dans le commentaire de cette haute déclaration du Seigneur. On a voulu, certains auteurs ont voulu, comme Frédéric Godé, pourtant en général assez sûr, il a voulu que la lumière soit produite par la vie. C'est tout à fait le contraire. C'est une erreur fondamentale. La vie est une chose donnée par Dieu. La lumière est aussi une chose donnée par Dieu. Mais l'une ne dérive pas de l'autre. La lumière que Dieu donne, Dieu est lumière et Dieu est source de vie. Il est source de lumière, il est source de vie. Et vous savez que, pour ceux qui étaient là, il y a quelque temps, lorsque nous avons parlé d'environnement, ils savent ce que la lumière correspond à l'environnement, n'est-ce pas? Je vais répéter très rapidement les choses. Je pense que c'est quelque... Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ça, chers amis, c'est une assertion. On ne peut plus scientifiquer. Il y a des théorèmes dans nos mathématiques et dans notre physique, n'est-ce pas, dans notre chimie, dans toutes nos sciences, n'est-ce pas. Il y a des théorèmes, mais des théorèmes aussi profonds, aussi grands, aussi magnifiques que celui-là, il n'y en a pas. C'est un grand théorème, un magnifique théorème. Le Nigo qui a pu dire, et qui a été suivi de je ne sais combien de Nigo, qui a pu dire la Bible n'est pas un livre de science, eh bien celui-là, il aurait mieux fait de rester couché le jour où il a dit ça. Pour être plongé dans la lumière, il faut donc suivre la source, ne pas se laisser écarter de la source. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Les pharisiens n'ont rien compris de cela, bien entendu, n'est-ce pas? Alors, ils reviennent à leurs petites affaires, ils sont toujours préoccupés par ce souci d'en finir avec Jésus et puis de trouver un bon motif pour le condamner. Les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai.
Et Jésus va leur répondre, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. »
Ici, est à nouveau posée la question du témoignage touchant la personne et la mission de Jésus. Cette question, nous l'avions déjà vue apparaître dans le chapitre 7 et au verset 33. Non, c'est pas là. L'avions vu apparaître avant. Cette question de témoignage, c'était dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5 et verset 31, 32, 33. Dans le chapitre 5, le Seigneur avait dit, « Eh bien, votre loi, la loi de Moïse, requiert le témoignage de deux ou trois témoins. Eh bien, moi, je l'ai fait, ce témoignage-là. » Et il avait dit, « Mon témoignage n'est pas vrai. » Enfin, il avait dit cela, nous avions eu l'occasion de nous y arrêter au verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi, si c'est l'homme qui rend témoignage, alors ne le croyez pas, vous n'avez pas à le croire, puisque la loi de Moïse exige deux ou trois témoins. » Mais je vous avais fait remarquer ceci, c'est que, en se reportant à la loi de Moïse, le Seigneur Jésus transplante le témoignage dont il est parlé dans Moïse, c'est-à-dire un témoignage quant aux fautes, quant aux péchés que d'aucuns peuvent commettre, il transplante donc, n'est-ce pas, l'objet du témoignage de Moïse dans un terrain nouveau, dans un domaine nouveau, celui de la révélation de Dieu. Et voilà que dans la révélation de Dieu, ce qui n'est plus le domaine du péché, des fautes des hommes, la révélation de Dieu, là aussi, on peut invoquer, et il faut devoir invoquer deux ou trois témoins. Eh bien, ici, le Seigneur parle un peu différemment. Il va dire, bien que pouvant invoquer le grand témoignage du Père, j'entends affirmer la véracité de mon propre témoignage. Il avait dit, si c'est moi qui rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi, si c'est l'homme seul, n'est-ce pas en moi. Et Jésus, nous l'avons remarqué, et nous le trouvons encore dans notre passage, ne fait rien de lui-même, il ne parle pas selon de lui-même, mais il fait tout ce que le Père lui dit de faire. Rien que cela. Donc, le témoignage de l'homme, n'est-ce pas, il ne le propose pas du tout. Cependant, il va dire ici, mon témoignage est vrai. C'est que il ne se regarde pas ici uniquement comme le fils de l'homme, mais comme celui qui est venu de Dieu. Il n'est pas donc seulement cet homme que voient ses interlocuteurs. Il est la parole de Dieu fait chair. Et c'est pourquoi son témoignage, même isolément, est vrai. Sa haute origine, tout le tracé de sa voie et de sa mission, tout cela, il les connaît. Il connaît son origine, il sait d'où il est venu, il sait ce qu'il vient faire sur la terre, il connaît tout cela, il peut parler avec vérité. Ça, il faut qu'il l'énonce, qu'il l'affirme devant ses hommes. Et il va leur dire, vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Vous jugez selon la chair. D'abord, vous n'avez, vos vues sont retenues dans un cadre limité, fermé, celui de vos pensées, la chair, n'est-ce pas, la chair de l'homme, vos pensées, vous restez dans le cercle confiné de vos pensées, ça c'est la chair, les pensées de l'homme. Ben, vous ne pouvez pas sortir de cela, vous ne pouvez pas voir ailleurs, votre vue ne porte pas en dehors de ce cercle. Alors, vous ne voyez en moi, en somme, leur dit Jésus, que l'homme. Alors, bien entendu, avec une telle vue, rien n'est compréhensible. Rien de ce que je vous dis ne peut se justifier. Ben,
Bien sûr, c'est un langage bizarre, c'est un langage même absurde, si c'est le langage d'un homme tout seul. Ben, je suis la lumière du monde. Quelle prétention il faudrait un homme pour dire une pareille chose, ça. Je suis la lumière du monde. Vous vous rendez compte? Je crois que on n'a pas encore trouvé un Mao Tse-Tung pour dire une chose comme ça. Ça, il faudrait aller encore plus loin que Mao Tse-Tung, peut-être, pour Mao Tse-Tung qui se fait adorer. Cependant, ben, il n'a pas encore osé affirmer cela. Donc, il ne voit en lui que l'homme. Rien n'est compréhensif, n'est donc compréhensible. Si les Juifs n'avaient pas été charnels, vous jugez selon la chair, vous voyez tout selon la chair. Mais si vous aviez une autre vue, si vous ne voyiez pas, n'étiez pas borné au vu de la chair, alors vous m'auriez reconnu comme envoyé de Dieu. Et sous l'enveloppe, l'enveloppe que j'ai, qui est une enveloppe de chair, vous ne voyez vous que cette enveloppe, vous avez les yeux de la chair. Et vous me voyez une enveloppe de chair. Je l'ai, cette enveloppe de chair. N'est-ce pas? Mais vous ne voyez que les choses de la chair. Vous n'avez de correspondance qu'avec ça. Et si vous aviez une vue de l'esprit, et vous verriez dans cette enveloppe de chair que j'ai, vous verriez le Fils de Dieu. Vous verriez le divin. L'être divin qui est venu d'en haut. Voilà ce que le Seigneur veut leur dire. Et il ajoute, moi, je ne juge personne. Ce qui veut dire, je n'établis pas de jugement a priori. Par pure impression, selon la pensée de l'homme. Ça, je m'y refuse. Je m'y refuse. C'est ma règle. Et, chers amis, nous avons bien entendu à nous reporter un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 11, verset 3, là où il est question prophétiquement du Seigneur Jésus. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit. Voyez-vous, les éléments, n'est-ce pas, de la chair, eh bien, le Seigneur ne s'en servira pas pour juger. Il se refuse à juger de cette manière-là. C'est pourquoi, ici, n'est-ce pas, nous le voyons dire, moi, je ne juge personne. Moi, enveloppe humaine, je ne juge personne. Les moyens de jugement de l'homme, je ne les connais pas, je ne m'en sers pas. Ils n'interviennent pas dans ce que je suis en train de vous exposer. Voilà, n'est-ce pas, ce que leur dit le Seigneur. Si je juge, ensuite va-t-il dire, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Si je juge, mon jugement est vrai. Si je juge, il a dit, je ne juge pas, donc, par les moyens de la chair. Je ne juge pas sur l'apparence, je ne juge pas d'après des présomptions, d'après des impressions qui pourraient monter en moi. L'homme, non, je ne juge pas sur les moyens de l'homme. Mais si je juge, car il faut bien que je juge des choses, et si je juge, alors comment vais-je juger? Eh bien, je vais émettre un jugement qui sera prêt. Pourquoi? Parce qu'il sera 100% fondé sur Dieu, sur la communication que je reçois de Dieu. Il sera fondé sur Dieu. Alors, Ésaïe 11, toujours, nous avons les deux choses dans Ésaïe 11. Nous avons vu, n'est-ce pas, que le serviteur de l'Éternel ne jugera point sur l'apparence. Puis au verset 4, mais il jugera. Vous voyez, c'est exactement ça que nous trouvons dans Jean. Mais il jugera comment les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est donc avec les moyens de Dieu, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, toujours active et présente en lui, qu'il jugera. S'il juge, c'est comme ça. Mais ce n'est pas humainement. Et, chers amis, alors, je m'arrête toujours chaque fois qu'il est nécessaire que nous recueillions pour nous, Église, une leçon. C'est pas tout d'étudier, n'est-ce pas, de faire l'exégèse du texte biblique. Il faut la faire avec profit,
Et je m'arrête donc encore à nouveau pour tirer une leçon. Le Seigneur ne juge pas humainement, il s'y refuse. Il juge par les éléments qui lui viennent du ciel, directement du Père, et uniquement comme ça. Et chers amis, que nous devrions faire autrement, nous ? Mais absolument pas ! Absolument pas ! Nous n'avons pas à juger selon les éléments de l'homme, avec les pensées de l'homme, juger d'une façon charnelle, nous devrions dire, nous aussi, moi, je ne juge pas. Je ne peux pas apprécier, je ne peux pas dire quoi que ce soit si je prends les éléments de mon jugement aux pensées de l'homme, à la chair. Je ne juge pas de cette manière-là, mais si je juge, et nous avons à juger, nous aussi. Et si je juge par Dieu. Nous avons à juger. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Ah, mes amis, voilà l'Église. Voilà des gens de l'Église. Au lieu d'entendre toutes ces diverses, n'est-ce pas, et ces choses plus ou moins médisantes, ou plus ou moins inexactes, et souvent très inexactes, n'est-ce pas, toutes ces choses qu'on entend, eh bien on devrait peut-être ne pas juger par les pensées de l'homme, mais juger de tout. Juger de tout, chaque fois que nous avons à apprécier, chaque fois que nous avons à orienter notre pensée sur un fait, sur quelqu'un même, n'est-ce pas, juger de tout par la pensée de Christ, c'est-à-dire par référence à Dieu. Tout par les moyens que Dieu nous donnera, et ça c'est le travail que fait qui l'homme spirituel. L'homme spirituel, n'est-ce pas, là-dessus, mais ce que fait l'homme naturel en bas, c'est fini. Nous avons encore une association homme spirituel et homme naturel. Tant que nous ne sommes pas dépouillés de cette tente, de cette chair, l'homme naturel est encore là, représenté par le physique, n'est-ce pas ? Mais il n'y a que ça. Mais en tout cas, en nous, dans le chrétien, c'est l'homme spirituel qui doit avoir seulement autorité. C'est lui qui parle, c'est lui qui doit s'exprimer. Et il juge tout. Regarde tout avec la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de Dieu à travers Christ. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, une haute leçon. Si l'on mettait ces choses en pratique dans l'Église, si l'Église était ainsi, mes amis, elle serait toute différente de ce que nous voyons. Toute différente. Oh, ce serait l'Église. L'Église, c'est là, l'Église, n'est-ce pas ? C'est pas un milieu religieux, l'Église. C'est un assemblage d'hommes spirituels qui forment un peuple saint, un saint sacerdoce. En dehors de ce que le témoignage de Jésus est vrai, venons le voir, eh bien Jésus accorde cependant satisfaction à la loi. La loi, je vous l'ai rappelé, n'est-ce pas, exigeait cela. Deutéronome 17, verset 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et puis 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Nous avons déjà vu que cela, n'est-ce pas, était une règle qui avait largement débordé la loi de Moïse pour venir jusque dans l'Église. Ah, elle est dans l'Église, elle devrait être pratiquée dans l'Église. C'est une loi spirituelle qui avait été formulé dans le cadre de la loi de Moïse, mais qui est resté actuellement un principe vivant dans le temps de l'Église. Ainsi donc, deux ou trois témoins pour juger d'un fait ou d'un crime.
Mais là, pour juger de la révélation, des éléments de la révélation de Dieu, eh bien, là aussi, n'est-ce pas, le Seigneur dit, il faut deux témoins. Le témoignage de Jésus va donc se doubler du témoignage du Père. Et là, le Seigneur va nous montrer ce témoignage agissant essentiellement dans le cœur des hommes. Dans le cœur des hommes. La répartie des Juifs est là pour faire ressortir des vérités. Dans le fond, ça, on peut, je vous l'ai déjà dit, cela, on peut presque se féliciter de ce qu'il y ait eu des contradicteurs, qu'il y ait eu des gens mal intentionnés, mal avisés, ça, pour obliger le Seigneur, en quelque sorte, à faire des déclarations, même pour d'autres hommes, pour d'autres écrivains sacrés, il y a eu aussi un phénomène de ce genre. Le témoignage de Jésus va donc se compléter, se doubler d'un témoignage du Père. De telle sorte que lorsqu'on connaît le Fils, on connaît le Père. Lorsqu'on connaît le Fils, on connaît le Père. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, en voilà un, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi, en voilà deux. Ils dirent donc, mais où est ton Père? Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Et par avance, nous avons déjà la déclaration qui va se formuler à l'adresse des disciples au chapitre 14 de Jean, et les versets 20 et 21, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » L'évangile de Matthieu nous a dit au chapitre 11 que personne ne connaît le Père, et le Père est connu intimement, n'est-ce pas, il s'agit de cette communion, connaissance qui est une communion, est connu intimement si le Fils le révèle à quelqu'un. C'est lorsque le Fils révèle le Père que le Père est connu. Le Père ne fait tout d'abord, nous l'avons vu aussi, que envoyer à son Fils, qu'attirer vers son Fils et donner à son Fils. Puis lorsque le Fils a pris une âme droite, une âme humble, une âme de foi, alors il lui révèle le Père. Il le fait entrer, autrement dit, dans la communion du Père, où il est lui-même. Les Juifs, bien entendu, disaient, où est ton Père? Et ce qu'ils auraient voulu, c'est que Jésus, n'est-ce pas, un moyen surnaturel, leur montre le Père et... L'occasion était bonne parce que tout de même, ils étaient troublés. Ils disaient, mais si lui, il était capable de faire ce qu'a appelé le prophète autrefois, si tu déchirais les cieux et si tu venais, si tu descendais, si tu te manifestais à nous, alors il est peut-être capable de faire ça. Alors, ils le mettent un peu au pied du mur, mais le Seigneur va répondre, ce n'est pas de cette manière-là que le Père veut se révéler, parce que ce qu'il faut, c'est la foi du cœur. Mais si vous aviez dans le cœur, si vous me connaissiez, si vous aviez un sens spirituel qui se soit mis à l'action, alors votre sens spirituel que tout homme possède, le vôtre est atrophié. S'il s'était mis à l'œuvre, vous m'auriez reconnu. Et me reconnaissant, vous auriez vu que j'étais l'envoyé du Père et vous auriez connu le Père par moi. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Au verset 20, il nous est dit que, une précision nous est donnée, Jésus disait ses paroles dans le lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Il y avait dans le temple 13 coffres en airain qui servaient de tronc. Hein, et là, dans ces coffres, les...
juifs qui entraient dans le temple déposaient leurs dons, qui étaient certains pour l'entretien du temple, d'autres pour toutes sortes de nécessités pieuses. Il y en avait 13. Et il y avait une salle dans laquelle on réunissait le produit de ces trompes, on comptait l'argent, tout était en pièces, et pas de billets, on comptait l'argent, et là, il devait y avoir aussi des armoires, des coffres, où l'on mettait l'argent. C'était le lieu où était le trésor, c'était ce lieu. Et ce lieu était au plein cœur du temple, au centre, naturellement, il n'était pas en périphérie, n'est-ce pas? Vous comprenez que le trésor, c'était quelque chose qui était bien au centre du temple, et tout près d'une autre salle où le Sanhédrin se réunissait. Eh bien, c'est donc là, au cœur du temple, mais tout près de ces hommes qui étaient disposés à le juger, à l'arrêter, à le juger, que Jésus va jeter, apporter cet enseignement, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a là donc, en quelque sorte, une audace soulignée, hein? Personne ne le saisit, c'était pourtant audacieux ce que faisait Jésus, et personne ne le saisit, parce que son heure n'est pas encore venue. Même là, n'est-ce pas, en quelque sorte, au nez et à la barbe des 71 membres du Sanhédrin, à leur porte même, Jésus vient, et il y avait certainement des membres du Sanhédrin qui l'écoutaient et qui faisaient la contestation, il vient leur apporter ça au cœur même du temple. Là, on aurait pu très bien fermer la salle du trésor et puis lui dire, ben maintenant tu es pris, maintenant tu vas plus bouger. Mais non, on ne se saisit pas de lui parce que son heure était pas venue. Lorsque Dieu ne veut pas quelque chose, l'homme est incapable de le faire. Au verset 21 et 22, Jésus va reprendre l'entretien. « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Alors, cela, le Seigneur l'avait déjà dit au chapitre 37, verset 34, il avait déjà dit cela, mais ici, Jésus apporte une accentuation à ce qu'il avait dit précédemment, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, vous ne pouvez venir où je serai. Il ajoute là, vous mourrez dans votre péché. Voilà, n'est-ce pas? Quelque chose de plus incisif encore, vous allez mourir dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Et le sens de cela est le même que précédemment, hein, mais plus appuyé encore. Vous ne pouvez pas entrer dans la communion. Vous chercherez quand je serai parti. Je suis là pour très peu de temps encore avec vous. Vous ne voulez pas me reconnaître maintenant. Mais quand je serai parti, vous chercherez en vain. Vous me chercherez. Certains chercheront Jésus, mais d'autres chercheront le Messie. Et le Messie, ils ne pourront pas le trouver puisqu'il est venu. Vous me chercherez et vous ne pourrez pas venir où je vais. Vous ne pourrez pas venir dans la communion où je suis, ni plus tard atteindre le ciel. Voilà le sens double des paroles du Seigneur. Pour l'instant, je ne peux pas venir où je vais, parce que j'y suis dans la communion. C'est ça, mais je serai auprès du Père, je serai glorifié auprès du Père, et là, j'amènerai mes élus. Mais vous ne ferez pas cela. Vous ne pourrez pas y venir, là. Et chers amis, quand on pense à ça, vous ne pourrez pas venir où je suis. Et au chapitre 13, le Seigneur dira d'ailleurs, vous ne pouvez pas monter où je vais, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aller où je vais, monter où je vais. Alors, on pense aujourd'hui à nos hommes qui préparent toutes sortes de programmes spatiaux, hein, et qui veulent s'en aller avec des petites machines, là, dans l'espace. Ils ont atteint la Lune, alors ils sont très fiers. Et ils pensent qu'ils vont atteindre les planètes et toutes sortes d'autres choses et qu'ils vont bientôt occuper l'univers. Eh bien, ils ne pourront pas aller bien loin. Ce sont des petits sauts auxquels le Seigneur mettra fin très bientôt. Celui qui a néanti les projets des peuples, il anéantira leurs projets. Parce qu'ils ne peuvent pas, que ce soit avec des machines, n'est-ce pas, ou autrement,
il ne peut pas venir où ce Seigneur est allé. Nous avons étudié les trois ciels, hein, et bien ils ne peuvent pas même occuper le deuxième ciel. Ils ont pu s'aventurer dans le premier ciel, mais le deuxième ciel même, ils ne pourront pas s'y rendre, encore moins au troisième ciel. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. C'est une parole qui ferme la porte à toutes les aventures de l'homme dans l'espace. Indépendamment, je dis ça incidemment, n'est-ce pas, mais la pensée de Christ, peut-être que Christ a eu cette pensée-là aussi, pas, parce que comme il savait tout d'avance, il a la prescience de Dieu, pas, il a vu que les hommes, Amos l'a bien dit, l'a bien écrit, n'est-ce pas, il a vu que des hommes, vous ne pouvez pas venir, vous, hommes pécheurs, vous mourrez dans vos péchés. Et où faut-il que vous mouriez? Sur la terre! Pas ailleurs que sur la terre, c'est la terre qui sera frappée des jugements de Dieu. Et c'est sur la terre. Il n'y a pas un homme qui puisse s'échapper de la terre. L'oublie trop souvent, ça. Et aller mourir ailleurs. Ils ne peuvent pas. C'est sur la terre que le jugement de Dieu viendra. Et combien d'hommes aujourd'hui, tout comme ces pharisiens d'alors, combien d'hommes meurent dans leurs péchés pour ne pas vouloir saisir le salut de Dieu qui reste extérieur à ces hommes. Ils ne veulent pas l'incorporer et c'est l'orgueil qui fait cela. N'est-ce pas? Il y a un salut, bien sûr. Le salut, il est dans ce monde encore maintenant. Il est là, à la portée de tout homme. Il n'y a pas besoin d'aller loin, pas besoin de courir pour trouver le salut. Il est là, n'importe où se trouve un homme pécheur, le salut est là, autour de lui, à sa disposition, tout comme il est environné de l'air, eh bien il est environné aussi de ce salut. Ce salut est fait, il est prêt, il est préparé, mais il reste extérieur aux hommes tant que les hommes ne l'ont pas saisi, ne se sont pas appropriés, n'ont pas fait en somme rentrer au-dedans d'eux-mêmes le salut opéré par Christ sur la croix du calvaire est présenté par Dieu, offert par Dieu. Ça reste une chose extérieure, une chose tout à fait extérieure. Et pour que ce soit intérieur, il faut le saisir. D'où, n'est-ce pas, nous avons vu dans cet évangile de Jean deux choses. Saisir, saisir Christ, venir à Christ, le saisir, c'est saisir la vie, c'est saisir le salut. Puis deuxièmement, croire, c'est se maintenir attaché à Christ. Au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas, c'est-à-dire si vous ne parvenez pas à être attaché à moi, comme le sarment est attaché au cèpe, si vous n'êtes pas attaché, vous ne pouvez pas recevoir les substances de la vie véritable. Et par conséquent, votre sort reste ce qu'il est maintenant. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous resterez ce que vous êtes, c'est-à-dire des gens condamnés à mort dans votre péché. Toutes ces choses, vous les savez. Au verset 25, « Qui es-tu ?» lui dit-il. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Nous voyons que ici Jésus ne veut pas prononcer le mot Christ ou même l'expression Fils de Dieu. Il ne veut pas parce qu'il lit dans le cœur, il suit la pensée de ces hommes. Ils sont en train de chercher le petit motif, là, le motif. Ça. Alors il ne va pas le leur donner, bien sûr. Mais comme il leur a dit déjà, il y a bien des mois, il leur a dit déjà ce qu'il était, alors il ne va pas le répéter. Et puis, Jésus ne consent pas à prononcer des mots ou à répéter ce que leurs oreilles ont déjà entendu ou tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, pour eux être une parole qu'ils prendraient comme prétexte pour condamner le Seigneur. À eux de faire fléchir leur orgueil, ils ont entendu de leurs oreilles, ils savent très bien. Notez que ça arrive quelquefois dans l'Église qu'on trouve des gens qui veulent vous faire répéter les choses ou qu'ils voudraient faire répéter à Dieu, n'est-ce pas, qu'il voudrait faire répéter. Mais Dieu ne répétera pas, ne consentira pas à répéter des choses que nous savons déjà et que nous avons déjà entendues. Souvent, nous, ben, nous voudrions les faire répéter à Dieu un petit peu pour que Dieu brise notre propre résistance. À nous de la briser par la foi. Hein? Regardez-vous comme mort au péché. Dépouillez-vous vous-même, n'est-ce pas, cela par le moyen de la foi. Et il ne faut pas demander à Dieu de répéter, par exemple, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont dans cette parole. Eh bien, il ne faut pas attendre de Dieu qu'il vous redise en particulier cela. Si vous étudiez la parole, son esprit vous aidera à la comprendre et l'appliquera à votre cas. Mais quand vous êtes devant une situation, si vous butez, si vous avez en somme mauvais cœur, mauvaise conscience à ce moment-là, n'attendez pas que Dieu force la porte et qu'il vous dise « Hé, mais rappelle-toi ce que j'ai dit, je le répète encore, j'ai dit ceci dans ma parole. » Non. Il y a quelquefois des gens, n'est-ce pas, qui se trouvent devant une obligation que leur fait leur conscience, compte tenu de la parole de Dieu. Leur conscience leur dit « Eh bien, tiens, va voir un tel. » Et puis, raccommode-toi avec lui, réconcilie-toi avec lui. Ils savent que la parole le dit, va te réconcilier. Alors, quelquefois, ces gens qui répugnent à faire cela, pas des chrétiens, alors ils vous disent carrément, ben, j'attends un signe de Dieu pour savoir si je dois y aller. Mais le Seigneur ne donnera pas de signe. Obéis à la parole, vas-y, de toi-même, ne pas, va faire ce que tu dois faire. Il ne faut pas attendre un signe dans un pareil cas, hein. Une répétition. Il faut prendre garde, n'est-ce pas, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu est pur, Dieu est droit. Mais j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il y a là, le Seigneur veut leur montrer qu'il y a une énormité de choses. Lui qui plonge dans leur cœur, qui sonde leur cœur, il y a des choses énormes. Il a des choses à dire, des choses, quantité de choses à leur dire et à les juger. C'est quelque chose d'énorme. C'est tellement énorme que si à l'instant il pouvait se voir dans cette parole de Dieu comme on se voit dans un miroir, il serait effrayé. Et pourtant, ce portrait qu'ils obtiendraient d'eux, toutes ces choses qui sont à juger en eux, ce jugement vient directement de Dieu. C'est de Dieu. Et ce n'est pas Christ qui les regarde ainsi, n'est-ce pas, parce qu'ils se font ses ennemis. Non, mais c'est bien de Dieu, de la part de Dieu, c'est bien dans la lumière de Dieu que toute leur mauvaise conscience est là, n'est-ce pas, rendue éclatante. Et le Seigneur pourrait la leur dire, il pourrait, mais il y a tant de choses à leur dire. Et chers amis, cela nous montre que nous avons, nous aussi, bien besoin de nous présenter, de nous offrir à la parole de Dieu pour qu'elle nous juge nos cœurs. Seigneur, sonde, dit le psalmiste, sonde mon cœur et mes reins. Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi. Mais, dit le Seigneur, nous découvrait d'un seul coup tout ce que nous sommes. Il le fait progressivement, souvent, n'est-ce pas? Il nous a pardonné les péchés, nous sommes repentis, c'est bien. Mais il veut, n'est-ce pas, nous sanctifier tout entier. Il veut nous sanctifier et nous faire gravir un chemin qui est celui du perfectionnement des saints. Eh bien, il faut que nous arrivions dans la parole à découvrir toujours des choses qui ne sont pas bonnes, même si elles ont paru justifiées, même si elles ne sont pas un péché, des péchés d'ordre moral. Il y a des choses qui sont à enlever, des choses qui nous privent de la gloire de Dieu. Chers amis, il faut entrer dans le perfectionnement. Il y a tant de choses à dire, tant de choses. Efforçons-nous de trouver notre portrait dans la parole de Dieu, de façon à ce que nous puissions nous sanctifier. Et puis, enfin, Jésus va leur dire, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé, vous,
c'est-à-dire quand vous aurez crucifié le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Élevé, c'est bien de la crucifixion qu'il s'agit d'abord. Quand vous aurez élevé, vous allez d'abord le crucifier, le Fils de l'homme. Eh bien, il y a un autre passage, d'ailleurs, avec une mention de Jean, qui nous montre qu'il s'agissait de la crucifixion. En premier lieu, donc, il s'agit de la crucifixion. En crucifiant Jésus, les Juifs vont l'élever sur la croix. On prononce là, n'est-ce pas, il va être élevé un peu de terre, la croix était assez haute, il va être cloué au bois, élevé de la croix. Mais il y a là, comme ça arrive souvent, un concours de pensées. Il y a là, si vous voulez, une pensée en cascade. Certes, Christ va être élevé à la croix, mais les Juifs qui vont le crucifier et l'élever sur le bois vont aussi l'élever bien haut. Ils vont l'élever sur le trône. Car c'est en le crucifiant, à cause qu'ils l'auront crucifié, que le Père le ressuscitera et qu'ensuite il montera jusqu'au Père. Ils ne se doutent pas que c'est eux qui vont amorcer ce travail d'élévation du Seigneur. Quand vous m'aurez élevé. Et tout cela est dans la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur n'est jamais limitée, n'est-ce pas, à quelque chose d'étroit, mais tout le développement est là derrière. Quand vous m'aurez élevé sur le bois, c'est vous qui allez faire ce travail-là. Eh bien, vous m'aurez élevé au trône. Vous m'élèverez au trône. Alors là, vous le verrez bien quand vous m'aurez placé sur le trône. N'est-ce pas, enfin, vous m'aurez placé de façon de parler, c'est le Père, mais c'est à cause de vous, c'est à partir de ce que vous allez faire que je serai élevé jusqu'au trône. N'oublions pas que le Seigneur parle ici toujours avec l'Ancien Testament, et en l'occurrence, c'est le chapitre 52 d'Ésaïe. Chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été un objet pour plusieurs, il a été pour plusieurs un objet d'effroi, tant son visage était défait, non pas défiguré, défait. Tant son visage était défait. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. D'ailleurs, l'Épître aux Philippiens nous parle aussi de cela, chapitre 2. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais c'est les Juifs qui commencent à faire ce travail. En élevant le Seigneur sur le bois, n'est-ce pas? Eh bien, ils amènent le Père à élever son Fils très haut jusqu'au trône. Hein? Il y a là donc une chose extrêmement intéressante, curieuse. Après avoir élevé donc le Fils et l'avoir élevé jusqu'au sommet, jusqu'à Dieu, eh bien le Saint-Esprit viendra. Et c'est alors que la vérité sur le Fils de l'homme qui aura été crucifié par eux, c'est alors que la vérité éclatera. Et pas pour tous, mais pour certains, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi. Vous comprendrez à ce moment-là, il y a beaucoup de Juifs, d'ailleurs après, même des Parisiens, de ces Parisiens qui étaient là, qui se convertirent après, vous voyez le livre des Actes, c'est ça, des Parisiens, des sacrificateurs, qui se convertirent comme les propres frères du Seigneur, et ils revenurent donc, n'est-ce pas, mais le Seigneur était déjà élevé, il était tout haut, il était dans la gloire, n'est-ce pas, au moment où ils ont reconnu ça, par le ministère du Paraclet, le Saint-Esprit, qui est venu et qui les aura convaincus de cela. Voilà ce que veut dire le Seigneur ici. Et enfin, notre dernier verset, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est la grande force du Seigneur. « Je fais toujours ce qui lui est agréable, c'est-à-dire ce qu'il veut, fais toujours cela. » C'est la grande force, il ne m'a pas laissé seul, j'ai beau être tout seul, j'ai beau être au milieu de toutes sortes d'ennemis sur la terre, de gens qui voudront me mettre à mort après m'avoir injurié, battu de verge, eh bien, je ne suis pas seul. C'est la grande force et la grande consolation du Seigneur sur cette terre face à l'hostilité, et cela, c'est sa fidélité d'une part et sa communion d'autre part. Fidèle au Père
et en communion, et jamais seul, toujours dans la communion. Voilà deux choses, fidélité, communion. Avec ça, on peut tout faire. Et c'est bien ce qui nous est proposé pour nous-mêmes aussi, dans l'Église. Amen.